Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 15 février 2022. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Le ministre irlandais des Affaires étrangères a été reçu à Téhéran par le président Raisi. Président Raisi qui souligne que la sauvegarde des intérêts des nations et le respect mutuel demeurent la principale priorité de la politique étrangère de l'Iran. Les ministres iraniens et russes des Affaires étrangères se sont entretenus au téléphone des questions d'intérêt et commun. Damas qualifie d'illégale la pratique israélienne sauvage à Al-Quds occupée. Deux terroristes armés se sont rendus aux autorités militaires algériennes dans l'extrême sud du pays. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Recevant ce lundi à Téhéran le ministre irlandais des Affaires étrangères, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que la sauvegarde des intérêts des nations et le respect mutuel demeurent la principale priorité, l'axe de la politique étrangère de la République islamique d'Iran. En ce qui concerne le gouvernement actuel, avant de noter ce sur quoi nous insistons dans les négociations en cours, c'est que les négociations doivent être levées de manière réaliste et que les droits du peuple iranien doivent être respectés. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Les ministres iraniens et russes des Affaires étrangères, respectivement Hossein Amir Abdollahian et Sergei Lavrov, ont discuté ce lundi au téléphone des résultats du sommet irano-russe, rencontre entre le président Raisi et Poutine, et des pourparlers de Vienne sur le plan global d'action conjoint ainsi que de la crise en Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué lundi soir 14 février au cours de la conversation téléphonique Amir Abdollahian et Lavrov se sont entretenus de la mise en œuvre des accords conclus lors de la récente visite du président Raisi à Moscou et de sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur le plan global d'action conjoint sur l'accord nucléaire de 2015 et se sont entretenus également des questions d'intérêt commun. Damas qualifie d'illégale la pratique israélienne sauvage à Al-Quds occupée. La Syrie a qualifié d'illégale la pratique israélienne sauvage représentée par la confiscation des terres palestiniennes et la démolition des maisons et le déplacement forcé des Palestiniens, exhortant les organisations internationales et humanitaires à les arrêter et à interdire à Israël d'aller plus loin dans le meurtre des Palestiniens et le vol de leurs droits. Dans un communiqué publié sur les attaques israéliennes sauvages contre les citoyens palestiniens à Al-Quds, le ministère syrien des Affaires étrangères a souligné « Le ministre a suivi de près les pratiques sauvages menées par les colons israéliens et la soi-disant armée israélienne à Al-Quds occupée et qui ont fait des pertes humaines et des dégâts matériels. » Le ministère a fait savoir que les ordres donnés par les autorités d'occupation israélienne de déplacer les citoyens palestiniens et de vider leurs propriétés dans le quartier de Sheikh Jarrah à Al-Quds occupé constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et transgressent le droit international et le droit humanitaire international. Et le ministère syrien des Affaires étrangères de conclure, la Syrie exhorte de tous les pays dans le monde et toutes les organisations internationales et humanitaires à agir immédiatement afin de mettre fin aux pratiques israéliennes et d'interdire à Israël d'aller plus loin dans le meurtre des Palestiniens et dans le vol de leurs droits. Un journal américain demande que Biden soit tenu responsable de ce qui se passe au Yémen. Un journal américain a exigé que les membres du Congrès tiennent Joe Biden responsable, comme ils l'ont fait avec son prédécesseur Donald Trump, de ce qui se passe au Yémen. Business Insider a déclaré dans un rapport que de nombreux Yéménites avaient été tués et déplacés de leurs maisons détruites par des bombes et des missiles de fabrication américaine et que la menace de classification posée par Biden conduirait à la famine de millions de Yéménites innocents. Il est temps de demander des comptes à Biden par les membres du Congrès, comme ils l'ont fait avec son prédécesseur Trump, indique le rapport. Le journal a souligné qu'un an avant ce mois-ci, le président américain Joe Biden avait fait du Yémen le centre de son premier discours de politique étrangère, dans lequel il avait déclaré que cette guerre doit cesser. Le rapport a remis en question les intentions de Biden sur le Yémen, malgré l'annonce de la fin des opérations militaires américaines au Yémen. Nous mettons fin à tout soutien américain aux opérations offensives dans la guerre au Yémen, y compris les ventes d'armes connexes, avait-il prétendu. De terroristes armés se sont rendus en Algérie aux autorités militaires dans l'extrême sud du pays. Le ministère algérien de la Défense a annoncé de lundi dans un communiqué la reddition de deux terroristes armés aux autorités militaires dans l'extrême sud du pays, soit près de la frontière avec le Niger. Les terroristes se sont rendus le 13 février 2022 aux autorités militaires à Taman Rasset, indique le texte précisant que les 10 terroristes ont rallié en 2012 les groupes terroristes activant dans la région du Sahel. À l'issue de cette reddition, un pistolet de mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type MAS-32 ainsi que deux chargeurs de munitions et 32 balles ont été récupérées, ajoute la même source. L'Algérie a déployé des milliers de soldats aux frontières du sud afin de contrecarrer l'intrusion de terroristes d'armes en raison de l'instabilité qui prévaut dans des pays voisins, rappelle des observateurs locaux. Le président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer, a appelé une collaboration nécessaire entre les acteurs pour surmonter des défis sécuritaires et climatiques au Sahel. Le responsable humanitaire a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse à la fin d'une mission de 5 jours qu'il a amenée au contact des populations plus vulnérables, notamment dans les régions de Tillab, Berri, Agadez et Diffa. Au Niger. Il a dit avoir apprécié lors de sa visite sur le terrain l'état d'esprit des déplacés internes qui ne demandent que le strict minimum pour reconstruire leur vie, rejetant ainsi toute idée de vivre indéfiniment de l'aide humanitaire dans les camps isolés. Le Niger et le Sahel en général sont affectés par les crises du monde en même temps qu'il s'agisse des conflits des armées, de pauvreté, de changement climatique et des effets de la pandémie de COVID-19, a souligné le président du CICR. Eh bien, c'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La sauvegarde des intérêts des nations et le respect mutuel demeurent la principale priorité de la politique de Téhéran, de la politique étrangère de Téhéran, selon le président Raïsi, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Recevant ce lundi à Téhéran le ministre irlandais des Affaires étrangères, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que la sauvegarde des intérêts des nations et le respect mutuel demeurent la principale priorité et l'axe de la politique étrangère de la République islamique d'Iran dans la nouvelle ère, avant de noter ce sur quoi nous insistons dans les négociations en cours, c'est que les sanctions doivent être levées de manière réaliste et que les droits du peuple iranien doivent être respectés. Le volume des relations commerciales et des échanges entre les deux pays peut être beaucoup plus élevé que le niveau actuel, a déclaré Ebrahim Raisi, toujours lors de cette rencontre avec le ministre irlandais des Affaires étrangères, avant d'évoquer le potentiel de coopération des deux pays dans divers domaines, y compris l'énergie, la science et la technologie, l'industrie et l'agriculture. Téhéran est déterminé à renforcer ses relations avec les pays amis indépendants, a réitéré le président Raisi, se référant à l'approche de l'Irlande à l'égard des relations politiques et économiques mondiales. Le président iranien a poursuivi : nous saluons l'indépendance de l'Irlande vis-à-vis des États-Unis et de certains pays européens. Ebrahim Raisi a qualifié les relations irano-irlandaises de fraternelles et de constructives, a déclaré. Téhéran de Dublin dispose de vastes potentiels pour renforcer et accroître le niveau des relations dans divers domaines commerciaux et économiques. Et l'utilisation de ces capacités est dans l'intérêt des progrès et de la prospérité des deux pays. S'agissant de l'accord multilatéral et nucléaire de 2015, il a indiqué que les garanties nécessaires doivent être données à l'Iran lors des négociations en cours afin de rétablir l'accord. Le ministre irlandais des Affaires étrangères a souligné que de son pays attache une importance particulière au développement des relations avec la République islamique d'Iran. Nous pensons que nous sommes à une étape stratégique dans nos relations avec l'Iran et nous voulons développer et améliorer le niveau des relations globales bilatérales. Et à cet égard, nous sommes déterminés à rouvrir notre ambassade à Téhéran. Le ministre irlandais des Affaires étrangères a déclaré que le découragement et le désespoir du peuple iranien quant à la confiance dans les pourparlers sur le nucléaire à Vienne sont compréhensibles en raison des promesses non tenues des États-Unis. L'Irlande estime que les garanties nécessaires doivent être données à l'Iran lors des négociations en cours afin de rétablir l'accord, a réaffirmé le chef de la diplomatie irlandaise.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de cette mobilisation importante anti-française des Maliens. Justement, une France qui depuis 9 ans n'a pas cessé de planter son couteau du terrorisme dans le dos des Maliens et a tout fait pour neutraliser économiquement et militairement ce pays afin de piller ce pays. Dans cette émission, nous allons nous concentrer particulièrement sur les sanctions exercées à l'encontre des responsables maliens par la France, et des sanctions qui n'ont rien donné car le site France 24 a clairement passé à l'aveu, a dit que ces sanctions n'avaient rien donné justement. Et en cette raison, le ministre des Affaires étrangères du Mali s'est rendu cette semaine à Téhéran, rencontrant son homologue iranien, justement pour profiter de l'expérience iranienne dans ce domaine, car depuis 40 ans, les sanctions exercées à l'encontre de la République islamique d'Iran n'ont rien donné à transformer l'Iran en un pays autosuffisant. Voilà, nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
C'est extraordinaire cet aveu d'échec de la France qui s'illustre sur le site de la chaîne télévisée France 24 dans ses quelques phrases inaugurales commentant l'impact de l'embargo sur le Mali. Les voisins du Mali espéraient début janvier qu'un embargo économique ferait plier la junte à la tête de ce pays pauvre et enclavé. Mais un mois après, si de premiers signaux d'alerte sont là, les autorités dominées par les militaires font front. Le voyant le plus visible s'est peut-être allumé fin janvier, quand le Mali s'est retrouvé dans l'incapacité d'honorer des remboursements de plus de 30 millions de dollars empruntés sur le marché ouest africain. Ces quelques phrases d'une nauséabonde hypocrisie et qui se veulent diviseuses à l'endroit des Ouest-Africains, alors même que le monde entier sait parfaitement que la CEDEAO est un moyen de chantage, de division, d'auto-affaiblissement, d'auto-endettement conçu par les puissances néocolonialistes contre l'Afrique de l'Ouest se démente d'elle-même. Et comment ? Elles reconnaissent que l'embargo signé par Kanessi, qui aurait dû mettre au pas, à peine en quelques jours, le peuple malien, est un cuisant revers, un peu comme cet embargo anti-Iran qui dure depuis 40 ans et qui a fait de l'Iran un pays autosuffisant. Puis, ces quelques phrases, mais là où elles veulent insinuer que les Maliens commencent à en avoir assez et partant à râler, se démentent encore. Et comment ? Une population éprouvée par 10 ans de conflits et de crises économiques, tout lecteur et à commencer le lecteur pro-résistant de ce site, se demande aussitôt, mais qui a causé ces 10 ans de guerre et de crise économique ? N'est-ce pas la France qui a occupé le nord du Mali puis le centre pour étendre son ancien destructis au sud sous prétexte d'avoir à combattre les terroristes ? Et puis cette économie malienne avec tous ces chiffres que les multinationaux nous font sortir sur les mines d'or découvertes, sur l'uranium dont les cours ne cessent de monter au grand bénéfice des multinationales. Pourquoi est-elle en crise encore après un si long séjour français ? Le calcul de la CEDEAO et de l'UEMOA est simple, que l'embargo force les autorités dites de transition à soumettre un calendrier acceptable de retour des civils au pouvoir. Le Mali, dépourvu d'accès à la mer, importe 70% des denrées consommées quotidiennement par ses habitants selon l'ONU. et le lien aujourd'hui restreint avec le Sénégal ou la Côte d'Ivoire est vital. Cheguel Kokala Maïga, chef du gouvernement installé par les militaires, fustigeait lundi les sanctions comme des mesures injustes et sauvages, dont l'objectif est d'asphyxier le Mali et de renverser le régime pour le compte de qui l'on sait, claire référence à la France devenue l'objet récurrent de sa vindicte. Et oui, la plupart des Maliens adhèrent à cette hypothèse et comble de malheur pour la France, la plupart des Ouest-Africains en font autant. Et c'est pour cela que l'embargo US-France-OTAN contre le Mali a été si judicieusement tourné au ridicule, car aucun État-nation côtier n'y adhère réellement. Cela rappelle la campagne de pression maximale US contre l'Iran, dont les Américains disent en ce 2022 qu'elle a été la plus grosse erreur géostratégique qu'ils aient jamais commise. En Asie de l'Ouest, il y a un vent similaire qui souffle sur l'Afrique de l'Ouest.
Alors voilà pour le reportage. Merci d'être avec nous. Vous regardez l'émission Le Débat. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour votre plateau, bonjour professeur Dortiguier. Vous savez que je suis étroitement la situation malienne, puisque je suis proche du mouvement Yerewolo et de sa leader Amina Fofana, qu'on appelle la dame de fer de Bamako, qui sont à la pointe de la révolution malienne.
Parfaitement, donc vous êtes très bien placé pour répondre à nos questions. Un grand bonjour à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour à tous vos auditeurs. Et bien sûr, avec mes remerciements pour la présence de M. Luc Michel, qui est le meilleur observateur, à notre avis, sur cette question.
Voilà, alors ma première question va s'adresser à M. Luc Michel. M. Luc Michel, alors pour commencer, c'est un peuple, le peuple malien, prêt à crever de la faim plutôt que de se soumettre à l'occupation étrangère. Je vous en prie.
Écoutez, le peuple malien applique ce que disait Sékou Touré en 1960 à De Gaulle. Il disait « Nous préférons vivre dans la misère que dans la suggestion coloniale ». Mais malheureusement, je ne partage pas l'optimisme de votre reportage. L'embargo est en train de frapper au cœur toute la région. Le Mali est en défaut de paiement vis-à-vis des instances internationales, ce qui était le but des Américains. Mais surtout, les économies agricoles sont en train de pourrir sur place dans toute la région, notamment en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et au Sénégal. Les services de renseignement militaire maliens ont intercepté et publié des conversations entre le premier ministre ivoirien Alassane Ouattara, qui est le principal agent de Macron dans la région, et l'ancien premier ministre malien Sissi. Ceux-ci avouent que le but des sanctions, c'est de détruire et de renverser le gouvernement malien. La France est aux prises la main dans le sac, et la propagande française fait croire qu'actuellement la visite de Macron à Moscou, le but était d'échanger l'Ukraine contre le Mali. Ce n'est pas vrai, mais le but, c'est de faire paniquer les populations africaines. Pas du tout. La France n'a pas les moyens d'échanger l'Ukraine contre le Mali. C'est de la pure propagande, mais beaucoup d'Africains sont en train de paniquer. Et le but, évidemment, c'est la misère pour toutes les populations de la région.
Oui, en effet. Monsieur Pierre Dortiguier, vous êtes avec nous depuis Toulouse. Alors, c'est vrai que la France joue une nouvelle carte et la mobilisation anti-française au Mali est entrée dans une nouvelle étape. Alors, les sanctions exercées à l'encontre des responsables maliens, le France 24, justement, dans son site Internet, est passé à l'aveu. Il a dit que ces embargos n'avaient rien donné jusqu'ici, alors que Luc Michel pense le contraire. Que pensez-vous?
C'est-à-dire que, oui, ces embargos n'ont rien donné jusqu'ici, c'est une part de vérité, mais je crois que la stratégie aujourd'hui d'ensemble, je dis stratégie d'ensemble, employée par la France et d'autres États africains, peuvent contraindre, disons, ou sinon contraindre, tout au moins neutraliser, le mouvement politique qui est né au Mali. Je dis bien un mouvement politique parce que je parle du fond de l'affaire. Parce que Dans les formes, c'est M. Le Drian, d'ailleurs, et toute la diplomatie française y insiste, bien sûr, la forme, est la contestation, vous savez, de la légitimité de la politique malienne à cause des coups d'État, des deux coups d'État successifs qui ont eu lieu, c'est-à-dire et l'absence d'élection. C'est ce que là-dessus que M. Le Drian repose, fait reposer son argumentation. Je crois que cette conception-là est une conception très abstraite et qu'en réalité, nous avons affaire à une, disons, un blocus de la faim. Je ne vois pas d'autres mots plus adéquats. Mais il faut observer ce que j'ai compris en écoutant le ministre des Affaires étrangères du Mali, interrogé par une de nos chaînes de radio, de télévision, que la France s'est heurtée à une force armée malienne qui était formée dès l'époque dont vient de parler Jean-Luc Michel, à savoir l'époque de Sékou Touré, vous savez, lors de la formation de la Nouvelle-Afrique, disons, avec Foucard, etc. La plupart, beaucoup de Maliens ont été formés à ce moment-là en Russie. Je parle de l'ancienne génération, je ne parle pas de la génération actuelle. Et donc il y a eu, disons, un peu ce qui se passait justement en Guinée, c'est-à-dire qu'il y a une tradition de résistance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de ces militaires et hommes politiques, ne sont pas, surtout les militaires, ne sont pas obnubilés, si je puis dire, par cette France-Afrique. Voyez, et donc, même s'ils sont dans une misère relative, si le pays est dans une misère relative, façon de parler pour adoucir les choses, il y a quand même une décision et une détermination politique. Ceci, je crois, est un fait nouveau. C'est le fait nouveau du Mali. Voyez-vous, il ne s'agit pas de parler d'élections ou pas d'élections. Il est très difficile, vous savez, de faire quand même des élections dans un pays qui est en état de guerre. Bon, de moins des élections qui soient convenables. Mais il y a un ressentiment de la population, mais surtout, je dirais ça de façon simple et définitive, il y a surtout une crainte de la France-Afrique, puisque c'est ainsi que nous l'appelons, voyez-vous, devant cette génération, non pas une première génération, mais une deuxième, troisième génération de militaires qui ne sont pas, disons, qui n'ont pas été formés dans le sens qu'espérait justement la politique, c'est d'ailleurs la politique gaulliste, c'est vrai, la politique de la Ve République, qui était par ailleurs, monsieur Jean-Luc Michel l'a dit l'autre jour, dans certains domaines américains, etc., et autres, très en avance et même très bénéfique au monde, mais sur le plan africain, nous avons été, cette politique française a été, bien sûr, dans la tradition de la Troisième République, Quatrième République, c'est-à-dire d'un colonialisme qui ne visait qu'une chose, c'est former les Africains à se battre et à mourir sur les champs de bataille européens. Voilà exactement quel était, avec évidemment les avantages que procurent les matières premières et autres, voyez-vous. Je crois que ces événements maliens auront une importance très grande sur l'avenir de la politique française intérieure chez nous. Je pense que cela pourrait même, dans ses conséquences, peut-être mettre en cause le régime politique que nous avons connu avec l'instauration de la Ve République. C'est-à-dire que cela va fragiliser et ébranler nos institutions et créer de nombreux mécontentements à l'intérieur des élites et du peuple français.
Sans aucun doute. Oui. Luc Michel, M. Pierre d'Ortiguier parle bien sûr de cette détermination politique chez les Maliens, mais les sanctions existent et ça frappe bien sûr le pays et même les pays voisins. Et justement, vous avez dit l'autre jour en parlant du Mali que la Russie et l'Iran se rapprochent du Mali pour régler ce problème malien avec la bonne foi, bien sûr. Et justement, le ministre malien des Affaires étrangères a décidé de se rendre hier justement à Téhéran pour rencontrer son homologue iranien pour profiter de l'expérience iranienne dans ce domaine et de la Russie, bien sûr. Que pensez-vous?
C'est tout à fait exact. Vous savez, la France-Afrique, elle est en train de mourir. Le but des guerres coloniales depuis les guerres d'Algérie et du Cameroun dans les années 1950, c'était la conquête des esprits et des cœurs. La France-Afrique a perdu les esprits et les cœurs. Il y a un double phénomène. Les sanctions ont été une erreur majeure Après la mesure qu'on détruit les économies de la région, la colère des populations africaines contre la France est en train de monter. La jeunesse est en révolte, pas seulement au Mali, mais aussi au Burkina Faso et dans tous les autres pays voisins, y compris en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et les coups d'État pro-français, comme au Burkina Faso, puisque là-bas ce sont non pas des militaires pro-russes, mais des militaires pro-français, ils sont en train de dresser contre eux leur population, à la fois contre le régime illégitime néocolonial et contre la France. Au milieu de tout cela, les militaires maliens qui sont notamment le ministre de la Défense, le Premier ministre et le colonel Assimi Goïta, qui sont des pro-russes, maintenant se tournent également vers l'Iran. L'Iran intervient depuis 2 ans à côté de la Russie et elle est en train de mettre au point des mécanismes avec le Sénégal et maintenant avec le Mali pour contourner les sanctions. C'est un phénomène fondamental puisque la France est en train de perdre la main. Il y a un axe Alger, Bamako, Moscou et Téhéran qui est en train de se mettre en place pour contourner l'ordre néocolonial. C'est un phénomène contre lequel la France est impuissante. Ça existe, ça explique la colère des Français, la colère de Macron, de Parlier, de Le Drian. Ça explique pourquoi la France perd la main et pourquoi elle complote avec les agents français dans la région. Les colonels de Guinée-Conakry comme Doumbouya, les colonels comme d'Amico à Ouagadougou, et évidemment tous ces gens sont en train de perdre la France-Afrique qui est en perte de vitesse et qui ne sait que mettre aux mains des mécanismes qui sont dépassés contre les peuples de la région.
Pierre d'Ortiguier, votre point de vue, je vous prie, concernant justement cette visite presque surprise du ministre malien des Affaires étrangères à Téhéran, rencontrant son homologue iranien, pour parler bien sûr de comment contourner les sanctions exercées à l'encontre des responsables maliens, mais également devenir un pays autosuffisant comme l'a réussi la République islamique d'Iran au cours de ces 40 dernières années. Et parlons bien sûr de la Russie, je vous en prie.
Bien sûr. La présence du ministre malien à Téhéran démontrerait très bien ce que Luc Michel a dit en début d'intervention, démontrerait la gravité de la situation au Mali. C'est-à-dire que la gravité dont nous n'avons pas ici, dans l'opinion française, à mon avis, une connaissance adéquate, une connaissance claire, précise. Cette présence montre que, vous savez que, je dirais que vous êtes... Je ne vous apprendrai pas, bien sûr, la profondeur du blocus américain contre l'Iran et puis des alliés américains. Mais cette initiative, disons, malienne, je le redis encore, montre la gravité de la situation au Mali. Et je pense qu'elle sera suivie, à notre avis, d'un courant de sympathie envers l'Iran, c'est certain, de la part des États africains. Quels que soient les efforts de certains pays que je ne nomme pas, par exemple, en Afrique du Nord, par exemple, oui, pour pouvoir, disons, diminuer ou calomnier, disons, cette influence iranienne. Je crois que l'Iran, en effet, se présente quand même, c'est un acquis, comme ayant expérimenté et triomphé par la voie de la technique, bien sûr, la voie de, on peut dire, de l'autonomie. Tout ce blocus insensé, inhumain, voyez-vous, auquel, à mon avis, les préparateurs, dont les préparateurs ne doutaient pas du succès, voyez. Je crois qu'il y a eu, je ne dis pas, il ne faut pas non plus employer des mots trop importants, mais enfin, il y a eu, de ce point de vue, peut-on dire, entre guillemets, un miracle iranien, c'est-à-dire le fait que votre pays ait pu tenir bon contre ce que n'importe quelle autre nation aurait, disons, cédé, voyez-vous, tant sur le plan matériel que sur le plan moral. Bien sûr, il y a...
Absolument.
C'est cela, à mon avis, qui, avec le temps, vous voyez, s'accroît. Parce que le temps grandit les choses. Le temps ne déforme pas les choses seulement. Mais le temps grandit le passé, voyez-vous. Et je crois que là-dessus, le temps africain à venir, c'est-à-dire c'est ce futur que nous connaissons en Afrique, va grandir justement le rôle qu'a eu l'Iran quand il s'est agi de résister, de tenir bon. Voyez-vous, j'ai souvent l'habitude, je m'excuse de répéter, mais ça c'est peut-être un défaut de mon métier de professeur de philo, mais quand je dis que l'imam Khomeini insistait, ne pas sur le fait qu'il n'était ni d'Est ni d'Ouest, mais qu'il fallait rester soi-même. Cela ne signifiait pas être hostile à l'Est ou à l'Ouest. Cela signifie qu'il fallait trouver en soi-même ce qu'on appelle l'autonomie, voyez-vous, les capacités de tenir bon. C'est ce qu'on appelle résister, d'ailleurs, en latin. Voyez, et c'est cela, je crois, que ceci est un, je ne dis pas un éloge de l'Iran, mais montre justement que l'Iran a, visé juste dans ces politiques qui peuvent être plus ou moins comprises par les générations, bien sûr. Mais disons que je crois que le temps travaille justement pour cette résistance iranienne. Et cette résistance iranienne s'offre comme modèle. Elle prétend pas devenir un instituteur du monde, mais elle s'offre comme modèle, comme exemple, voyez-vous. Et je crois que la vertu de l'exemple, qui est toujours magnifiée par la suite, voyez-vous, à mon avis, laissera des traces et obligera les grandes puissances, je dis les grandes puissances, hein, à commencer par les États-Unis, à modifier quand même l'attitude arrogante qui était celle jusqu'à présent, et dont je dois dire que même l'attitude, à mon avis, le sommet de l'attitude arrogante a été celle de Trump, évidemment, avec l'assassinat du général Soleimani. Je dois dire que je n'ai jamais connu, à mon avis, un tel cynisme en politique, et ce cynisme aussi était aux dimensions, voyez-vous, de la peur, pas de la peur, mais disons de la constatation, de la capacité de tenir bon de l'Iran. Voilà, il faut dans le malheur, il faut aussi voir les marques du bonheur, mais dans le mal, il faut aussi voir l'empreinte du bien.
Et tout à fait. Luc Michel, tout de même, jusqu'ici, le rapprochement entre l'Iran, la Russie et le Mali était presque à l'ombre. Les responsables maliens ont déclaré que la Russie, depuis qu'elle a décidé de mettre à la disposition des Maliens des armes, ils ont tué plus de terroristes en un mois qu'ils ont tué en 20 ans par les forces étrangères, dont la France. Mais cette visite du responsable malien à Téhéran, est-ce qu'on peut dire que c'est pour mettre à jour justement ce rapprochement, donc il décidait une fois pour toutes de se rapprocher, donc ce sera divulgué par le monde entier que le Mali est avec l'Iran et la Russie pour régler le problème malien?
Il faut comprendre ce qui se passe géopolitiquement. Le Mali est au centre d'une guerre par procuration avec la Centrafrique entre le bloc américano-occidental avec Paris et Washington et le bloc de l'Est avec Moscou, Pékin et Téhéran. La guerre qui se déroule là-bas, c'est d'un côté la guerre hybride de la Russie et de l'Iran contre la guerre classique, économique, médiatique et militaire du bloc occidental. Il ne faut pas oublier que si la guerre hybride a été inventée par la Russie en Ukraine en 2013, ce sont les Iraniens qui l'ont inventée en 2006 au Liban. Précisément, au Liban, le Hezbollah, qui est le principal acteur de la guerre hybride, il a brisé le blocus économique occidental américano-français, et la guerre hybride iranienne, elle a été exportée dans un autre pays qui est touché par la guerre économique occidentale, c'est le Venezuela, c'est Caracas. Il y a un corridor économique Téhéran-Caracas-Dakar, précisément, en Afrique, pour briser le blocus économique iranien. Aujourd'hui, c'est le Mali qui est au cœur de cette guerre économique avec la Russie et l'Iran. La visite du ministre des Affaires étrangères malien à Téhéran, après sa visite à Moscou, elle est en train d'officialiser cet axe Alger, Bamako, Moscou et Téhéran qui s'oppose à l'axe Paris et Washington. C'est cela qui est en train de s'officialiser, c'est cela qui est en train de se mettre en place. Il y a aujourd'hui un axe économique entre le Mali et le bloc de l'Est qui s'oppose à l'axe économique occidental avec sa politique de l'embargo et du blocus qui frappe le Mali, mais dont tous les peuples de la région, dont le principal agent de la France dans la CEDEAO, qui est Alassane Ouattara, est en train de frapper l'économie de son pays. C'est cela la réalité économique et politique et géopolitique dans la région. Et face à cela, c'est la Russie et l'Iran qui sont les principaux alliés du Mali et de la Centrafrique.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Un accord est possible dans un proche avenir, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. Parvenir à un accord serait possible à court terme si la partie américaine et les trois pays européens veulent sérieusement revenir à la pleine remise, mise en œuvre de leurs obligations liées au plan global d'action conjoint sur le nucléaire de 2015, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et son homologue irlandais Simon Coveney ont participé à une conférence de presse à l'issue de leur rencontre aux locaux du ministère iranien des Affaires étrangères. Les deux hommes se sont ensuite penchés devant les journalistes sur les détails de leur discussion lors de cette entrevue. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré « Nous espérons voir bientôt la réouverture de l'ambassade d'Irlande à Téhéran. Nous avons l'une des meilleures relations dans le domaine des pays européens avec l'Irlande et le volume des relations d'échange entre les deux pays était toujours important sous d'autres gouvernements. Quant à nous, nous sommes toujours pour le développement des relations bilatérales au sein du nouveau gouvernement. » Il a ajouté, nous espérons améliorer nos relations avec des pays comme l'Irlande qui ont une vision coopérative, en particulier à la lumière des nouveaux développements, en examinant la politique étrangère équilibrée du gouvernement issu du peuple du président Raisi. Amir Abdollahian a déclaré que lui et son homologue irlandais conviennent que le volume des échanges entre les deux pays n'est pas satisfaisant, en particulier au cours des deux dernières années, ajoutant c'est alors qu'il existe une capacité très diversifiée dans les deux pays. Aujourd'hui, nous avons convenu de donner la priorité à la coopération sur certaines questions, en particulier dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, de la gestion des ressources en eau, des technologies de l'information et de la communication, des industries médicales et pharmaceutiques, des nanotechnologies et des énergies renouvelables, a-t-il déclaré. Bien entendu, cela ne signifie pas que nous ne prenons pas au sérieux les autres domaines de coopération, a-t-il renchéri. Évoquant les relations parlementaires entre les deux pays, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré « Ces relations revêtent une importance particulière et je suis heureux de souligner que ces dernières années, y compris ces derniers mois, la diplomatie parlementaire entre les deux pays a eu l'élan nécessaire. » Amir Abdollahian a rappelé « L'Iran soutient l'adhésion non permanente de l'Irlande au Conseil de sécurité de l'ONU et nous considérons que le rôle du pays pour contribuer à la paix, à la stabilité et à la sécurité mondiale est important notamment par le biais du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes conscients de l'attention de l'Europe, en particulier de l'Irlande, aux évolutions dans la région avoisinant de l'Iran, ainsi de déclarer, ajoutant que l'Afghanistan reste notre priorité dans la région et dans le monde. Concernant le calendrier de la fin des pourparlers de Vienne, il a déclaré « Les menaces et les avertissements de l'autre partie ne peuvent point nous imposer une fin précipitée aux pourparlers. Au contraire, l'effet de la table des négociations, le sérieux et la diligence des parties occidentales et américaines à revenir à leurs engagements liés au plan global d'action conjoint détermineront l'issue et l'aboutissement des négociations, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères. Je dois souligner que le programme nucléaire de l'Iran est complètement pacifique, a conclu le chef de la diplomatie iranienne. Pour sa part, le ministre irlandais des Affaires étrangères a déclaré lors de cette conférence de presse aux côtés de son homologue iranien, « Nous avons encouragé tout le monde à revenir à l'accord sur le nucléaire. Nous avons eu des contacts réguliers avec l'Iran l'année dernière. Je comprends que l'Iran soit en colère contre des décisions précédentes du gouvernement américain. L'Iran a pris des mesures dans le domaine nucléaire. Quant à la position irlandaise, notre pays est pour le désarmement nucléaire. » La relance de l'accord sur le nucléaire pourrait profiter au peuple iranien, a-t-il précisé. L'accord de Vienne pourrait ouvrir la voie à une coopération régionale plus poussée. L'Irlande souhaite aider toutes les parties à faire aboutir ces négociations, a-t-il encore fait valoir. Un mort et plusieurs blessés dans des affrontements avec l'occupation à l'ouest de Jenin. Un jeune Palestinien a été tué et plusieurs autres ont été blessés dans la nuit de dimanche à lundi 14 février lors d'affrontements avec les forces d'occupation qui ont pris d'assaut les localités d'Al-Yamoun et d'As-Sila al-Harissiya à l'ouest de Jenin en Cisjordanie occupée. 11 autres ont été blessés, dont un grièvement atteint d'affrontements entre les habitants et les forces d'occupation qui ont bouclé toutes les entrées et routes reliant les deux municipalités. Des sources sécuritaires palestiniennes ont rapporté qu'une force militaire israélienne soutenue par des bulldozers avait attaqué la localité d'As-Sila al-Harissiya et plusieurs soldats ont escaladé les toits des maisons afin de démolir la maison du prisonnier Mahmoud Jaradar. Lors de cette destruction, un mur s'est effondré sur deux des soldats israéliens qui ont été blessés. La coalition d'agression saoudienne détruit le bâtiment des télécommunications de Sanaa. L'aviation de la coalition d'agression saoudo-américaine a détruit le bâtiment du système de télécommunications à Sanaa moins de 3 semaines après la coupure d'Internet et des communications internationales après un raid des Saoudiens ayant visé le bureau des télécommunications à Hudaydah. Le correspondant de la télévision yéménite Al-Masira a rapporté que les avions de combat saoudiens ont mené deux raids contre Sanaa vers 20h du matin ce lundi 14 février 2022, détruisant totalement le bâtiment de télécommunications dans le district d'Al-Saoura. Et d'ajouter, les frappes saoudiennes ont également causé de grands dommages dans les immeubles adjacents au bâtiment ciblé. Le dignitaire religieux bahreïni Cheikh Issa Rassem a appelé le Bahreïn à refuser de faire de Bahreïn un pays soumis à l'entité israélienne. Chaque musulman en Bahreïn et dans d'autres pays islamiques doit s'opposer à la politique injuste qui veut que nous fassions partie d'Israël, a insisté Cheikh Rassem lors d'un discours à l'occasion du soulèvement du 14 février. Et d'ajouter, dès chaque jour, nous voyons qu'un nouveau pouvoir est alloué à cette entité déchue sur la terre de Bahreïn, a-t-il souligné. Et Cheikh Rassem de conclure, nous sommes sur la bonne voie, nous sommes conscients que nous suivons une religion juste et nous sommes sur la voie de la satisfaction de Dieu dans notre lutte pour restaurer les droits de la fierté divine de Bahreïn et sa véritable liberté. Ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.